Alors, on va passer à la troisième intervention de ce matin, que va, après ce repas, donc voilà, c'est notre apéritif maintenant. Najé, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, comme je demandais à Dominique,
oui.
Pour que l'on sache un petit peu voilà, ce qui t'a amené à réfléchir sur ces questions, un petit peu ton parcours, etc.
Surtout que j'ai vu voilà, sur la fiche, il y avait écrit simplement « diplômé de Sciences Po », ce qui est vrai.
On voulait mettre plus, puis la personne qui a mis la, disons, la mise en page graphique a... donc voilà, c'est pour ça que maintenant, donc, tu as la possibilité de te présenter.
Donc effectivement, diplômé de Sciences Po 2009, parcours voilà, les 5 ans classiques, master affaires publiques, ce qui prépare assez classiquement en France au, à l'ENA, ce genre de choses. Une petite expérience en tant qu'assistante parlementaire, c'est à la mode. Et puis, à un moment, envisager la recherche en sciences politiques. Et puis le Seigneur en a décidé autrement. Et donc là, voilà, j'ai redémarré en fait des études à Vaud, que là je termine, mais en master recherche, j'y reviens quand même, et en théologie, en éthique sociale, et avec un engagement pastoral au service de l'Église locale. Et je suis à l'Église évangélique libre de Paris-Alésia. Voilà un peu pour. Pour me situer. Donc maintenant, je garde cet intérêt pour la chose publique, mais en tant que théologienne aussi formée, et voilà, j'y reviens, et où ça mènera, on verra bien. peut-être commencer par dire merci de m'avoir invitée, et puis ma joie de participer à cette journée du Rège sur ce beau thème de l'espérance et ce thème nécessaire et si fondamental pour nous chrétiens, comme nous l'a bien rappelé Claude Bécher en commençant ce matin. Parler de l'espérance en politique, effectivement dans le calendrier électoral qui est le nôtre, il y a là un peu un défi. Une actualité politique ces dernières semaines qui est assez affligeante, assez peu porteuse d'espérance, mais on va essayer d'élargir un peu l'image. Je voudrais commencer par cette toute petite lecture de ce livre qui s'appelle « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique » et qui a été... publié par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France en octobre dernier. Conférence des évêques de France qui a eu l'occasion à 2 autres reprises simplement depuis Vatican II de parler publiquement pour avertir, pour dire là il y a quand même une situation qui nous préoccupe. Mais sachant même qu'avant l'accent était plus sur en tant que chrétien en politique comment se positionner. Là, il y a un appel, un sens de l'importance de parler aujourd'hui en tant que chrétien par rapport aux politiques. Si nous parlons aujourd'hui, c'est parce que nous aimons notre pays et que nous sommes préoccupés par sa situation. Il ne s'agit pas pour nous d'alimenter la morosité par de sombres constats, mais en regardant les choses en face, d'apporter résolument notre pierre, notre réflexion au débat que notre pays se doit d'avoir. Et il le présente dans les termes de... en tant que chrétien, mais solidaire de l'humanité et du coup de nos concitoyens. C'était publié le 14 octobre 2016. Il y avait eu un précédent en 72 sur l'engagement citoyen des chrétiens intitulé « Politique, Église et foi pour une pratique chrétienne de la politique ». Et puis en 99, une déclaration « Réhabiliter la politique grâce au déploiement d'une éthique ». Qui doit permettre de renouveler l'engagement et le débat démocratique. Quelle espérance quant à notre vivre ensemble, puisqu'il s'agit de cela, quand on parle de politique, quelle confiance dans notre avenir commun, terrestre en tout cas. Parler de politique, c'est parler de la vie de la cité, c'est parler du collectif, du commun, de ce qui nous lie ensemble, du gouvernement commun des choses aussi bien que des hommes. Sur la littérature, ce qui est intéressant, il y a pas mal de points en résonance. Enfin, je pense qu'on va retrouver. On est sur de l'individuel, mais qui ont des conséquences collectives. Mais là, sur le politique, on est voilà sur la structuration de nos existences en tant que collectivité humaine. Ce que je vous propose, c'est d'abord, dans tout un premier temps, de prendre acte. Il faut en passer par là, de la crise de la politique, mais plus profondément de la crise du politique, et plus encore derrière, il me semble, la crise de la modernité politique et de l'espérance, en quelque sorte, dont elle était porteuse. Et par rapport à toute cette situation de crise, situation de jugement, point d'interrogation, de voir comment est-ce qu'en tant que chrétien, on peut regarder ça. Est-ce qu'il nous faut désespérer du politique, de la politique, et finalement voilà, nous replier sur nos églises, et puis ou à l'inverse, vous aurez compris que c'est pas forcément la piste que je propose, quelle contribution pouvons-nous apporter en tant que porteurs d'espoir, en tant que citoyens de la patrie céleste, mais que le Seigneur a fait habiter et fait habiter dans une patrie terrestre et qui nous demande d'investir aussi avec sérieux et responsabilité. Alors, une précision, je m'intéresse à la situation européenne et française. Voilà, je peux parler de la politique en Chine. Mais la France, je la trouve particulièrement intéressante au niveau politique, tant elle a investi le politique. Et pour ça, elle me semble assez révélatrice de pas mal d'enjeux à ce niveau-là. Mais donc, dans un premier temps, tout un constat d'une situation de crise, crise de la politique, crise du politique et de la modernité politique, crise de la politique, et quand je dis la politique, j'entends l'activité politique, la pratique, l'exercice de la politique. En anglais, ils ont voilà cette distinction, ils disent policies plutôt. Ils vont plutôt ranger policies sur la politique par rapport à politics pour le politique. Alors, quelques indicateurs, mais vous le savez déjà, poids de l'abstention, bien évidemment. Donc d'une absence de participation à la vie politique, concrètement par le vote, qui est quand même un élément au cœur de notre système politique. Et puis alors, pour ce qui nous concerne, là sur l'élection qui vient, tous les analystes qui sont quand même très très interpellés par la hauteur de l'abstention sur l'élection qui est habituellement quand même la grand-messe de notre système, l'élection présidentielle, et qui est le lieu où il y a de moins d'abstention. Historiquement, sous la Ve République, on a connu entre 15 et maximum 28%, c'était en 2002, où Le Pen est passé au deuxième tour, d'abstention. Là, on prévoit, le tout dernier sondage Ipsos donne 35% d'abstention. Plus d'un électeur sur trois qui n'y va pas. Ce qui est interpellant, c'est que cette abstention touche près de un jeune sur deux, on est presque à 50% pour les 18-24 ans. Et puis pour toutes les couches populaires également, on est presque à 1 sur 2. Des chiffres quand même qui inquiètent. Autre indicateur, la défiance envers la classe politique. Tout ce qui touche au degré de confiance envers ceux qui nous dirigent. À nouveau, voilà, c'est quelque chose qui est mesuré assez régulièrement. Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, tous, quand on demande, c'est un baromètre qui a été fait en début 2016, qui mesure le degré de confiance des citoyens envers leurs dirigeants, de 1 à 100%, et tous, sauf les maires, donc sauf quand on a un niveau local de responsabilité politique, tous tombent sous la barre des 50%, en termes de confiance. On tombe à 29% pour le président de la République, 30% pour les députés européens, 33% pour le Premier ministre, 42% pour un député. Mais au plus on va local, au plus ça remonte quand même. Ce sera peut-être un élément intéressant. Pour le maire, c'est quand même celui qui reste le seul à vraiment inspirer la confiance à ses électeurs, c'est 63%. sur tout ce qui a été mesuré aussi sur les sentiments éprouvés envers la politique. 39% de la méfiance, 33% du dégoût, 8% de l'ennui, 2% de la peur, soit 82% de sentiments négatifs. Et puis aussi, voilà, 76% du personnel politique qui semble corrompu dans le ressenti des citoyens. Ce qui ne veut pas dire que 76% des hommes politiques sont corrompus. Je crois que c'est faux. Mais ça dit quelque chose. Et puis, bien sûr, comme indicateur, toute la montée des partis anti-système qui rejettent la classe politique, qu'ils s'en aillent tous. Et que ce soit des populismes de droite ou des populismes de gauche, avec une montée, c'est un phénomène, il y a une grosse littérature actuellement, toute la montée des partis populistes, alors en particulier les partis populistes de droite, type le Front National, que l'on observe en France mais dans toute l'Europe. Pourquoi une crise de la politique, une telle défiance, abstention, montée des partis anti-système? Il semble qu'il y en a plusieurs. On peut bien sûr penser à toutes les raisons éthiques, et la campagne actuelle le montre bien. Voilà, tout le jeu des dérives de l'intérêt particulier des hommes politiques, d'abus, d'enrichissement personnel. Alors, est-ce que plus qu'avant? On n'en sait rien. En tout cas, c'est plus su. C'est plus su, et les médias sont quand même assez friands de mettre en avant les affaires. Et on a l'impression presque de ne voir que ça, des fois, de la politique. Une crise plus profondément, et ça me semble un élément intéressant, de la parole publique. Or, toute notre démocratie, notre système, c'est un système de politique fondé sur la parole. Alors, sur le droit, mais quand même, sur... à la base du contrat social, qui se traduit derrière après en droit, mais c'est une parole donnée, les uns finalement envers les autres, et qu'on s'engage à respecter, qui se traduit après juridiquement, mais on élit là un homme politique sur sa parole, sur ses promesses, et quand du coup cette parole n'est plus tenue, on voit bien à quel point ça fragilise notre système. Et c'est quelque chose qui revient énormément, hein, le sens d'une trahison par rapport aux promesses tenues. Voilà, depuis les référendums où on sollicite l'avis du peuple et qui ne sont pas respectés, à voilà, tous les engagements de campagne, ça fait vraiment beaucoup de mal au cœur de notre système politique. Des raisons liées à notre rapport au temps, et j'y reviendrai après, puisque l'espérance implique un rapport tendu vers l'avenir, ou pas encore là. Alors que nous sommes dans une société, et ça a été dit, voilà, qui est qualifiée de présentiste, de centrée sur le présent. Et du coup, toute la difficulté du débat démocratique dans une société à vue court-termiste, qui est une société basée plus voilà, sur le présent, sur le court terme, sur l'événement, avec une vraie, hein, et c'est une vraie difficulté pour le politique, une vraie tyrannie de l'immédiateté, une vraie impatience qui veut de l'information, quelque chose pour nourrir le moulin, alors que l'action politique, on le sait bien, nécessite du temps long. C'est pas un coup de baguette magique, la politique, et il y a... ou encore, voilà, la tendance à faire une loi au moindre événement, voilà, le moindre fait divers, ça y est, il faut faire une loi... Sinon, on est disqualifié en tant qu'homme politique, alors que bien souvent, il n'y en a pas besoin, le système législatif le permet déjà, et on se laisse dicter par l'événement, et il y a un vrai sujet à ce niveau-là. Des raisons liées à notre système médiatico-économique, une politique prise en esclavage, qui joue le jeu aussi, hein, c'est un peu l'œuf et la poule, d'un système où il s'agit d'informer, mais aussi de répondre à des impératifs économiques de profit, pas être naïf, hein, sur voilà, qui tient les grands groupes de médias, et où, oui, il y a une volonté d'informer, mais il n'y a pas que ça. Alors, voilà, le vrai débat politique de voilà, qu'est-ce qui fait notre vivre ensemble, c'est compliqué, c'est exigeant. Et on a tendance à tomber aujourd'hui plutôt dans ce que beaucoup d'auteurs appellent la politique spectacle. On cherche le buzz, l'événement, voilà, vous savez, tout le jeu de la petite phrase choc. Et ce qui est assez affligeant, c'est que les gens là sont intéressés par le spectacle de l'élection présidentielle actuellement, mais n'iront pas forcément voter. Des débats de la primaire, quand on pense par exemple, hein, la gauche, la droite, où au final, l'un et l'autre avaient à chaque fois une minute pour exprimer une idée sur des sujets extrêmement complexes, extrêmement techniques, extrêmement complexes. Ils avaient chacun une minute par-ci, une minute par-là, et au total, ça faisait 8-9 minutes. Bon. Le débat sur la présidentielle en début de semaine, de la semaine dernière, était peut-être mieux à ce niveau-là, il y avait plus de temps. Mais quand même, on avait l'impression d'être un peu dans un jeu télévisé, hein, le maillon faible. J'avais un peu de compassion quand même pour ces hommes et ces femmes qui sont mis là dans une arène et qui va avoir la petite phrase qui va être retenue le lendemain, mais sachant que le lendemain de toute façon on était déjà de retour sur les affaires. Une pipolisation de la vie politique qui est une vraie déviance et avec quelque chose de paradoxal parce que on a un souci de proximité. Il y a ce souci de proximité avec les politiques, que le politique soit comme nous, et ça a été notamment identifié par tout le recours aux émotions dans le discours politique, comme moyen de se rapprocher des gens. On parle aussi de banalisation de la fonction politique, hein, on a un président normal, voire une vulgarisation. Et je pense voilà, notamment quand même à Trump de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis pas sûre que ça fasse du bien à la politique qu'une telle banalisation ce personnel en position de service, mais aussi d'autorité avec responsabilisation, avec des responsabilités importantes, des choix importants à faire. Et on doit s'interroger sur les conséquences dans l'image du politique, notre non-respect aussi, hein, d'une génération élevée avec les guignols de l'info, dont je fais partie aussi, hein. Raison idéologique, déclin, épuisement des grandes idéologies qui structuraient le débat politique, en particulier depuis la chute du mur de Berlin, épuisement des grands partis politiques qui sont censés être ceux qui forment le personnel politique, qui font émerger de nouvelles figures. Pascal Perrineau, un politologue, dit voilà, les partis politiques sont morts alors qu'ils étaient un repère à l'ombre duquel on construisait son choix politique. Crise en particulier des partis de gauche qui étaient traditionnellement associés à des partis porteurs d'espoir, des étiquettes, des repères brouillés et ici les extrêmes sur le spectre politique n'ont pas complètement tort quand ils disent quand ils dénoncent l'UMPS. Ça marche plus, mais en tout cas, au sens de toute une classe politique acquise à au libéralisme et dont on ne voit pas tellement les différences. Des choses qui peuvent vraiment perturber que penser si on y réfléchit bien, un mouvement politique qui semble porteur d'espoir pour beaucoup, En Marche, actuellement, tout récent, tout jeune, mais auquel se rallie un Robert Hue, communiste, et un Alain Madelin. Il y a de quoi perturber. Et donc on voit bien qu'on va plutôt être sur des affrontements de personnes plutôt que d'idées, vraiment. Crise de la politique, mais au-delà, crise du politique. Quand je dis crise du politique, je vise ce qui, en amont même de la politique, vise l'espace de la parole et du débat dans ses conditions de possibilité même. Quand on dit le politique, on touche au contrat social, à notre manière de nous penser comme collectivité, de structurer nos existences en collectivité. Là aussi, beaucoup de choses sont écrites sur la crise du vivre ensemble, de notre difficulté aujourd'hui à faire corps social, et dont les crispations identitaires ne sont en fait que le symptôme. En France, on évoque souvent les valeurs de la République, Mais un Pierre Manon, par exemple, a bien montré dans un ouvrage « Situation de la France » que les valeurs républicaines ne veulent rien dire, ou plutôt elles signifient l'aspiration à vivre ensemble quand on ne partage plus rien de commun. En clair, c'est le règne du vide qui débouche facilement sur le vide du règne. Et comment est-ce qu'on peut comprendre cette crise du politique ? Il me semble qu'il faut voir un peu plus large et prendre la mesure des conséquences du triomphe de la démocratie libérale de marché après la chute du mur de Berlin. Quelque chose qui avait été prophétisé en quelque sorte par Francis Fukuyama au début des années 90, la fin de l'histoire, le dernier homme, où il voyait la démocratie libérale de marché comme l'horizon idéologique indépassable de l'histoire. Or le problème, et là c'est la critique marxiste qui le montre bien, qui est redite récemment par quelqu'un comme Alain Badiou, qui est un des rares encore fervents défenseurs du communisme, c'est que la démocratie libérale de marché est une impasse. C'est-à-dire en tout cas que la démocratie, si elle doit être démocratie, elle ne peut être de marché, parce que c'est le marché qui sera structurant dans notre rapport aux politiques, de sorte qu'insidieusement, la société politique sera vécue sur le même plan que la société économique. Autrement dit, le risque intrinsèque d'une démocratie libérale de marché, je ne dis pas la fatalité, c'est de n'être que superficiellement une démocratie au sens républicain, du républicanisme dans la philosophie politique, au sens fort, au sens aristotélicien, d'une association civique. Elle risque de n'être que superficiellement une démocratie et de tomber dans une entreprise associative, une société somme d'intérêts individuels, où la politique consiste à remporter le marché électoral en ciblant ses électeurs comme des consommateurs, et on parle d'ailleurs bien de marketing politique. Une sénatrice chrétienne de gauche, partagée à l'occasion d'une conférence au Centre Sèvres, l'ultralibéralisme a conduit à une hyper-individualisation de citoyens grains de sable qui n'ont aucune maîtrise sur leur destin. Surtout, le libéralisme est aujourd'hui un mode d'organisation principiel et non pas seulement un mode d'organisation économique. C'est-à-dire qu'il touche à l'ontologie, il pose le jeu en compétition aux autres jeux. La construction du « nous », et on est en plein dans la problématique politique, devient impossible. Il n'est pas seulement différent, mais il est concurrent. Et puis, quand même, une autre conséquence du libéralisme, notamment financier depuis les années 80, c'est le creusement des inégalités entre les plus pauvres et les plus riches. Et la question se pose, comment faire société quand une injustice structurelle telle est là. Cela dit, pour ne pas rester que dans l'économique, Ulrich Beck, un sociologue allemand, auteur de « La société du risque », remarque « Dans nos sociétés, le non-politique a tendance à occuper la place traditionnellement dévolue au politique, à savoir que nous ne serions plus dans la situation de réguler nos propres existences, mais que de l'extérieur de nous-mêmes viennent d'autres instances nous indiquant le chemin que nous devons suivre, règne du marché, règne de la science, de la technique, règne d'un religieux tribalisé qui fait valoir son exclusivisme pour tous. » Tout cela, voilà, en opposition à l'idée d'un politique qui a une position un petit peu plus architectonique dans la définition de notre existence commune et de la construction d'un bien commun, voilà, qui n'est pas pour nous l'espérance du royaume de Dieu, mais dans ce monde-ci que le Seigneur tient. Qui peut expliquer aussi cette crise du politique, il faut resituer aussi dans la crise de l'État. Crise de l'État, au sens aussi bien crise de l'État-nation que crise de l'État-providence. Crise de l'État-nation, et ce qui nous intéresse ici, c'est que l'espace du politique s'est intimement construit en modernité dans le cadre de l'État-nation. Pas que ce soit un absolu, mais en tout cas, c'est ce qui nous concerne là. Mais du coup, toutes les transformations liées à la mondialisation économique, et accentuées, en tout cas répercutées aussi par la construction européenne, vient bousculer notre espace politique habituel. L'espace dans lequel on a l'habitude de faire de la politique, de se penser ensemble, de décider ensemble de certaines orientations plutôt que d'autres. Autrement dit, il y a eu globalisation économique, ça a très bien marché, mais sans globalisation politique, démocratique, si... Et en tout cas, pas non plus qu'il y ait rien, y a des choses, mais pas du tout au même niveau et pas du tout avec le même poids. C'est le refrain habituel sur l'Europe économique qui est bien en place, mais qui n'est pas assez politique. Et c'est bien ce qu'on lui reproche, finalement. Du coup, il y a le sens d'une impuissance du politique, d'une impuissance des démocraties dans cette, cette crise de l'État-nation liée à la globalisation économique. Alors, ce qui est un peu malheureux, c'est que cette impuissance, elle est particulièrement mise en avant par les partis d'extrême. Et en un sens, j'ai le sentiment que les partis plus classiques sont un peu dans le déni encore ou ne l'ont pas pleinement intégré dans leur logiciel à un moment. Comment est-ce qu'on fait, sérieusement, pour faire du politique qu'on ne peut plus faire comme avant, dans l'État-nation, avec ses frontières très claires, mais voilà, dans une logique beaucoup plus de flux en supranational, mais aussi en infranational, de réseaux, de régions. Comment est-ce qu'on fait du politique là-dedans? Et ça, il y a quand même une vraie faiblesse du point de vue des partis classiques, je trouve, à ce niveau-là. Les partis extrêmes ont quelque chose de très clair et qui a sa cohérence, hein, que je plaide pas du tout, mais qui est du coup du repli identitaire national. Et l'argument, et il est logique, c'est... et ils avancent l'argument de la démocratie et du politique, ils jouent pleinement là-dessus, que pour que le politique revienne et que du coup on puisse maîtriser à nouveau notre destin et pas simplement être le joujou de forces autres, notamment économiques, il faut revenir à l'espace national. Et donc du coup on est dans une conception, mais qui est de fait complètement déplacée par la logique de flux et de réseaux entremêlés dans lesquels on est. Et sur les autres on n'entend pas grand chose d'un peu créatif et sérieux. Et une crise aussi... À côté de la crise de l'État-nation, une crise de l'État-providence, c'est le titre d'un ouvrage de Pierre Rosanvallon. Et cela dit, ce mot providence est intéressant. Sentiment que l'État n'est plus capable de résoudre un certain nombre de problèmes de notre société. Je reviendrai plus tard, on attend sans doute trop de l'État. Du coup, forcément déception à l'égard de cet État qui ne se donne pas ou n'a plus les moyens de satisfaire un ensemble de droits liés à une certaine conception de la dignité humaine. Et ça, c'est très très prononcé en France. Mais à nouveau, comment faire société et être une société d'espérance quand 20% des jeunes sont au chômage? C'est une question très concrète. Au-delà de... ou avec cette crise de l'État-providence, de la capacité du politique à résoudre un certain nombre de problèmes de notre société... aussi pas à résoudre, en tout cas à limiter le mal, on doit voir en fait que c'est le projet même de la modernité politique qui est en crise. Puisqu'en effet, le projet de la modernité politique, c'est un projet qui était fondamentalement caractérisé par l'idée de progrès, ça a été dit, par un élan d'espérance transformateur, une foi, et j'emploie ce mot à dessein, en la capacité de l'homme à changer le monde par lui-même, par le savoir, par la raison, par le progrès de la science. Et il faut se souvenir que la Révolution française, dans sa phase la plus dure, 1793, a aboli le calendrier pour un nouveau calendrier permettant de repartir de zéro. Et je rappelle cela parce que ça nous dit le rapport au temps de la modernité politique, qui distingue un passé fait d'erreurs ou de connaissances imparfaites, un présent de recherche, de découverte et un futur rationnel qui est fait d'expansion du savoir. Ça, c'est le schéma classique de la modernité, en général de la modernité politique. Un progrès fait par l'homme, qui ne doit rien à la providence divine, qui est fruit d'une élite savante et des nations les plus avancées, les plus développées selon certains critères, et porteuse de la bonne nouvelle au monde entier. Le révolutionnaire est plein d'espérance politique. Dans sa capacité, par son action, d'instaurer la société de demain, l'homme de demain, libre, émancipé, cet idéal révolutionnaire a été actualisé, même dramatisé, amplifié par la révolution marxiste. Et on retrouve dans cette deuxième grande révolution politique de la modernité, la révolution russe, les mêmes accents, la même trame où se distinguent le passé, le présent, le futur. Un passé d'aliénation, de lutte des classes, un présent dramatique où le capitalisme porte à son paroxysme la tension sociale et l'espérance d'un futur avenir délivré de la propriété privée et de cette lutte des classes. Or, on voit bien en 2017, 200 ans, un peu plus de 200 ans après, ce projet de la modernité politique, que ce projet a quand même du plomb dans l'aile, que le progrès social, le progrès de l'humanité, n'aurait peut-être pas une idée morte, mais en tout cas une idée bien morne. Et ça se traduit concrètement avec, voilà, c'est pas l'idée que nos enfants auront une meilleure vie que nous, est loin d'être assurée. Un moque d'espoir, plutôt, aujourd'hui, en le progrès collectif, dû aux problèmes économiques, mais aussi à la question écologique, mais on aura une intervention cet après-midi, donc je ne vais pas trop développer, mais dire voilà, qu'il y a vraiment une rupture fondamentale. Sur la question écologique, c'est le philosophe Hans Jonas qui, en particulier, a lutté pour une éthique définie par les conséquences pour l'humanité demain, et qui a posé le principe de responsabilité dompté en très 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 gros, issu le principe de précaution. Mais ce type de philosophie se passe bien sur plus du tout un projet d'espérance. Mais, et d'ailleurs, Hans Jonas a écrit en réponse au principe espérance de Hans Bloch, qui est lui un philosophe marxiste quand même, dans une sécularisation du royaume de Dieu, pour le principe espérance. Avec Hans Jonas, on est vraiment dans une heuristique de la peur, à cause là, de la problématique écologique. Il y a un impératif pour nous aujourd'hui. Dans le même esprit, l'idée du projet de la modernité, modernité politique, que la science, la technique qui nous apportait un mieux vivre est aujourd'hui capable, cette prise de conscience qu'elle est aujourd'hui capable de détruire l'humanité en 2 secondes, hein, au niveau nucléaire, c'est ça qui est là. Et alors maintenant, voilà aussi tout ce qui concerne la transformation sur l'humain même, sur les problématiques de transhumanisme. Et là, je vous renvoie à toutes les analyses d'un Jacques Ellul sur le système technicien, qui est voilà, plutôt inquiétant, et une forme de dimension totalitaire de ce système technique. Ainsi, un Alain Finkielkraut écrit dans un petit ouvrage « De la limite, petit traité à l'usage des orgueilleux ». Alors que la technique n'a cessé d'être notre espérance pour devenir notre destin, et à une époque où il ne nous est plus possible de penser le développement scientifique en termes de progrès, nous voici confrontés à une question que l'âge des Lumières n'avait pas prévue, celle des limites. Alors ce constat est peut-être un peu excessif, car beaucoup continuent de penser la technique comme une espérance pour l'humanité, de penser le développement en termes de progrès, mais on a quand même un vrai effondrement de l'optimisme technologique hérité du 19e siècle. Enfin et surtout, du point de vue du progrès culturel, la civilisation en quelque sorte, du progrès de l'humanité vers le bien, le XXe siècle a apporté un démenti dramatique à cette espérance-là. 2 guerres mondiales, des millions de morts du nazisme, millions de morts du communisme. Et ce qui n'est pas pour rassurer, c'est que malgré l'expérience infernale du XXe siècle, les choses pourraient se répéter. C'est en tout cas ce qu'un certain nombre d'auteurs, d'analystes, qui aujourd'hui nous alertent sur des similitudes entre notre situation actuelle et, alors, soit 1910, soit 1929. Un Jacques Attali, un commentateur assez écouté hein, auprès des cercles politiques, on lui pose la question suivante: Trump, Poutine, le Brexit, etc. Où sont les lueurs d'espoir? Ne sommes-nous pas entrés dans un nouveau Moyen-Âge? Et il répond, comme je l'ai déjà dit à de plusieurs reprises, nous sommes dans un moment qui ressemble à 1910, c'est-à-dire où tout était possible pour le bien, et comme chacun sait, ça s'est terminé par un siècle de cauchemar. Tout était en place en quelque sorte pour que ce siècle soit un siècle magnifique au niveau technologique, idéologique, artistique, culturel, géostratégique, mais les hommes ont choisi le protectionnisme, nationalisme, guerre, l'engrenage qui a été si souvent l'engrenage de la catastrophe au cours des siècles, protectionnisme, nationalisme, guerre, protectionnisme économique, était en marche en 1910 et il est en marche aujourd'hui. À 30 ans d'ici, on peut avoir une Europe défaite et une nouvelle guerre franco-allemande. Et puis un auteur dont le titre laisse entendre que ce monsieur est plein d'espoir, « La situation désespérée du présent me remplit d'espoir », qui est une citation de Marx, et qui est en fait plutôt très pessimiste, en fait. Il dit, bon, malgré tout, il faut quand même essayer d'espérer, mais... qui écrit, page 18, 21, j'ai marqué ça. C'était là, et le bis repetita de 1929. Et je réitère que c'est à désespérer du genre humain. C'est d'autant plus à désespérer que les mêmes causes ont produit les mêmes effets, mais en plus grand, c'est-à-dire encore plus mondialisé. La crise de 1929 avait directement amené le nazisme, la crise de 2008 a radicalisé un théofascisme épars et virulent depuis quelques lustres, lequel, si on y réfléchit bien, se présente aujourd'hui comme l'exact envers de l'ultralibéralisme. Si bien que nous sommes désormais aux prises avec deux délires mortifères, deux délires en miroir qui, comme tels, produisent chacun des résultats exactement contraires à ceux qui étaient promis. Dans l'un, le délire occidental, la pléonexie, vouloir toujours plus, ultralibéral, se transforme en risque de tout perdre. Dans l'autre, le délire théofasciste, il renvoie à l'islamisme radical, on prétend, contre la dépravation crûment affichée par l'Occident, restaurer une pureté absolue. À noter au passage que ces théofascismes ont à coup sûr beaucoup d'avenir, car ils partent d'une considération évidente pour beaucoup de gens dans le monde, la cupidité érigée en règle par l'Occident, et ceci de façon ouverte depuis le tournant néolibéral. Donc voilà, du coup là, il y a toute une diatribe par rapport à ça. Mais ce n'est pas tout, car comme le dit le proverbe, jamais 203, ces deux délires mortifères en suscitent un troisième, le délire identitaire. Ils montent aujourd'hui partout en Europe, ils s'opposent aux deux premiers et les complètent, comme pour faire en sorte qu'on ne puisse sortir de l'un que pour entrer dans l'autre. Une espèce de trinité de délire. Voilà que contre la mondialisation néolibérale, il prenant retour à la patrie, non pas une patrie fondée sur un principe universaliste, du type liberté, égalité, fraternité, prête à s'ouvrir à qui ferait sien ce principe, mais une patrie refermée sur elle-même, désignant des boucs émissaires, des ennemis étrangers, pour que des acolytes réputés amis se regroupent et décrètent contre eux l'état d'exception. On retrouve là les conceptions de Carl Schmitt, qui ne fut pas nommé pour rien président de l'Union des juristes nationaux socialistes en 1933. Voilà un peu ce qui s'écrit, et il y en a un tas d'exemples comme ça de livres. Et en même temps, ces gens-là n'ont pas renoncé à l'espoir politique, collectif. Le discours progressiste continue à être tenu par les hommes politiques. Voilà, on a là un Benoît Hamon qui nous parle d'un futur désirable. C'est fort, c'est son slogan de campagne. Nombre d'intellectuels, Marcel Gauchet, Roger Paul Droit, Stéphane Hessel, qui ont toujours un discours progressiste. La matrice est en général marxiste est quand même toujours là. Avec l'idée, voilà, il y a bien et bien des solutions aux problèmes fondamentaux qu'on les découvrira un jour, on les mettra en pratique sur cette terre au prix d'un effort altruiste. Mais donc du coup derrière avec une vision anthropologique assez optimiste sur la nature humaine. Une étude toute récente montre, qui fait une analyse des discours politiques en France dans les campagnes présidentielles entre 81 et aujourd'hui. Et c'est intéressant parce qu'elle montre qu'il y a eu dans le discours même, dans le discours politique même, que l'espoir est toujours là, mais qu'on est beaucoup plus sur un espoir individuel par rapport à un espoir collectif. Et on est beaucoup moins sur du long terme, mais sur un espoir individuel assez court-termiste. La situation du chômeur, là. Dans l'année qui vient. On n'est plus sur des discours qui portent une espérance plus, un espoir plus collectif et un peu plus long terme. Un autre auteur écrit « C'est aller trop vite que de dire que la religion du progrès est morte. La religion progressiste est bien plutôt... » C'est lui-même, hein, il n'est pas du tout chrétien, cet homme. la religion progressiste est bien plutôt entrée, il dit comme le christianisme avant lui, entrée en agonie. Les idées affectes dotées d'une dimension mythique survivent à leur mort spéculative. Et comme le christianisme, le progressisme moribond n'en continue pas moins de fournir à nombre d'êtres humains du sens, donc de l'illusion, et des motifs d'espoir, des modèles d'intelligibilité et des normes. Le besoin humain d'illusion collective est tel que celles-ci, après leur disparition, durent longtemps. Leur fonction consolatrice, leur rôle de bouclier contre l'angoisse résiste aux critiques et aux déconstructions ainsi qu'aux démentis fournis par l'expérience historique. Disons que l'édifice imposant du progrès est désormais lui-même en ruine après avoir ruiné toutes les traditions culturelles et que la contemplation de ces ruines idéologiques ne va pas sans nostalgie et sans mélancolie. Et il dit d'ailleurs que la dépression est un peu un symptôme collectif de cela. Le spectacle d'une décomposition permanente et le sentiment d'une perpétuelle fuite en avant paraissent avoir chassé la confiance progressiste en l'avenir sans qu'ait pu surgir un nouvel horizon de sens. Plutôt qu'une idée morte, le progrès est une idée morne. Un autre auteur a fait, Dominique Moisy, une géopolitique des émotions. Et il montre que l'Occident, qui avait été caractérisé dans ce projet de modernité politique porteur lié à l'idée de progrès, et qui était caractérisé plus par une culture de confiance, est aujourd'hui caractérisé par une culture de la peur. Et il attribue plutôt à l'Asie une culture de la confiance. Alors voilà, un peu le constat, j'ai pris beaucoup de temps sur ça, mais ça m'a paru quand même bon de faire un peu tout ce panorama pour quand même prendre la mesure de ce que nous vivons. Un temps d'incertitude, de crise multiforme, voilà, et j'aime bien quand même rappeler que le mot crise derrière, c'est aussi le mot jugement. Il y a peut-être place pour une forme de repentance. Un temps cependant où le politique ne renonce pas au pari de l'espérance, en un sens où il ne peut pas faire autrement, sinon il signe son arrêt de mort. Et je vais y revenir. Alors en tant que chrétien, quel regard par rapport à tout ce constat? Alors dire que cette crise ne doit pas nous désespérer outre mesure, et après avoir pris voilà, toute une demi-heure sur la crise quand même, à certains égards, voilà, elle est extrêmement complexe, extrêmement profonde, ce qui nous a été dit sur la littérature hein, va dans le même sens. Elle nous dépasse, elle peut nous effrayer, mais nous rappeler qu'elle ne dépasse pas notre Dieu, qui est le véritable souverain. Elle n'échappe pas à sa souveraineté, c'est fondamental de le dire. Elle ne doit pas nous désespérer non plus, cette situation politique, parce que, et à nouveau, c'est évident, mais c'est bien aussi de le dire, notre espérance, elle n'est pas dans le politique. Notre espérance n'est pas dans le politique. Et en un sens, du coup, toute cette crise de la modernité politique, en tant que porteuse de cette idée de la capacité de l'homme à changer par son action collective l'homme, elle a à voir avec la crise d'une idole. Et en un sens, elle n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour nous. Elle ne nous surprend pas. Une idole, voilà, on a trop investi, elle ne tient pas. Et il y a de l'idolâtrie, clairement, dans le projet politique moderne. Idolâtrie dans sa croyance en la capacité du politique à transformer l'homme, à résoudre le problème du mal, et ce faisant, a quand même pas mal détruit l'homme. Je me revois à nouveau aux événements du XXe siècle, dans un livre de Laurence Olivier, alors qui est un désespéré de désespéré, il fait tout un commentaire en fait de Cioran. Je vous le reciterai après, mais là il écrit, il dit voilà, contre l'espoir comme tâche politique, n'est-il pas légitime de se demander si la révolution a toujours atteint ses objectifs, si l'espoir a tenu ses promesses? Un regard attentif montre que la révolution s'est accompagnée d'effets pour le moins pervers. L'espoir comme tâche politique de libération s'est accompagné de massacres, de tueries, d'exclusions. L'exemple de la révolution bolchévique est à cet égard révélateur. On estime entre 25 et 50 millions de morts le prix du passage au système communiste en URSS. Le bilan est encore plus lourd si on tient compte des effets des échecs économiques, de l'exclusion sociale, de la déportation de milliers d'opposants au régime. Ce n'est pas l'espoir, dit-on, qu'il faut mettre en question, mais la façon dont certains ont essayé de le réaliser. La révolution reste un idéal noble, la révolution marxiste. Rien n'est moins certain. Il me semble au contraire important d'interroger l'espoir comme idéal qu'on ne peut séparer de sa mise en œuvre. L'arbre et ses fruits. Pourquoi la révolution ne serait-elle pas porteuse des actes qui sont commis en son nom? Et il parle de la révolution marxiste, qui est, qui caractérise bien en fait le projet de la modernité politique, hein, tout le marxisme quand même. Idolâtrie, car on a investi le politique, l'État en modernité, et le terme à nouveau État-providence en français, je trouve assez intéressant. Au fond, d'être un peu le sauveur du monde, de résoudre tous les problèmes en interne pour la communauté nationale, et du coup, quand il n'est pas capable de résoudre tous les problèmes, on lui en veut, et on le déteste, on le boude, et aussi capable de résoudre tous les problèmes en externe, l'État capable de résoudre le problème de la paix dans le monde. La France a tendance à quand même élire un peu le Messie quand elle élit son président. On pourrait citer le messianisme politique américain, des Français, des droits de l'homme et toutes les interventions militaires assez désastreuses faites au nom de la liberté, de la démocratie libérale de marché, des droits de l'homme, l'Irak. Clairement, dans quelle mesure n'y a-t-on pas mis plus de chaos? Il y a des livres très intéressants d'un théologien catholique américain, William Cavanaugh, fait toute une analyse de la migration du sacré vers l'État, en modernité. Tu parlais tout à l'heure d'une sacralisation de la littérature. Il y a eu en modernité une sacralisation de l'État. On investit le politique d'une capacité transcendantale qu'il n'a pas, que Dieu ne lui a pas donné, parce qu'il relève de ce monde. Et on voit bien que le rejet, la défiance envers le politique, envers la politique, est bien signe aussi qu'on y a trop investi. Qu'on y investit en tout cas plus qu'il n'est capable de supporter. Et là, on voit peut-être aux analyses de Doyover sur l'idole et la contre-idole. On a investi une partie de la réalité d'être Dieu finalement, et forcément, ça tient pas. Et le nombre de livres, j'ai fait une recherche à Sciences Po en mettant espoir, espérance, et le nombre de livres sur espoir et désillusion par rapport à un tas de cas concrets, mais à chaque fois, voilà, espoir et désillusion, espoir et déception, espoir et machin. Donc ne pas désespérer outre mesure, dans la mesure où pour nous la tâche du politique n'est pas l'espérance au sens fort, transcendant. Un peu d'humilité pour le politique n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. En même temps, attention. Attention à ne pas, par effet de balancier, en venir à une indifférence du politique. On voit bien que la tentation peut être là. On a besoin du politique. Le politique a sa place. Voulu par Dieu, dans sa providence, pas dans l'ordre de la rédemption, mais dans l'ordre de sa providence, pour tenir sa création déchue pendant qu'il rachète cette création, qu'il la sauve par la constitution d'un peuple nouveau, habité par l'esprit vivant selon les valeurs du royaume. Mais ce temps de l'histoire, dans notre eschatologie, où la création est tenu par Dieu, et le politique fait partie des structures par lesquelles Dieu tient aussi ce monde, pour limiter le mal, notamment. Et l'histoire politique compte pour Dieu. Au fond, si la politique n'est pas porteuse d'espérance, et nous devons être dire et redire et dénoncer des fois l'espérance qui est mise dans le politique, La politique suppose, au fond, l'espérance, dans le sens où l'idée que le monde a un sens. Sinon, pourquoi le conserver ? Pourquoi le tenir ? Pourquoi Et je dis ça par rapport à un courant qui a un écho intellectuel fort et qui est dans la ligne en fait nihiliste, nietzschéenne, foucauldienne et ainsi de suite, de la critique radicale et qui a grande presse hein, dans les milieux en sciences sociales, qui déconstruit, mais qui déconstruit uniquement, qui n'est pas une critique pour construire autre chose, mais et dont ce livre est je vais vous lire quelques extraits pour vous montrer, en fait, aboutit à détruire complètement le politique. Il critique l'espoir comme tâche politique, je vous ai lu un extrait tout à l'heure, en dénonçant ce à quoi ça a conduit, et dire en fait, mais c'est parce qu'il faut complètement détruire le politique. Et ça tombe dans un nihilisme absolu. Qu'est-ce que je peux vous lire ? Hop. Il est vrai que l'indifférence radicale... Ah oui, et puis une précision, cet auteur, en fait, c'est tout un commentaire de l'auteur qui a été cité précédemment, Cioran, l'auteur roumain. Il se base beaucoup sur cet auteur. Il est vrai que l'indifférence radicale, c'est ce que lui propose, a un effet destructeur. Mais que font les prophètes de l'espoir ? Des milliers de morts, des opposants emprisonnés, de tous ceux qu'on égorge, qu'on enferme parce qu'ils ne partagent pas le même désir de libération qu'eux. Que font-ils tous ces hommes qui ne correspondent pas à leur idéal de l'homme ? Peu importe le nombre de morts, l'idéal doit-il triompher à tout prix ? Est-ce là la solution finale à la question de l'homme ? Au-delà des morts, c'est moins le procès de la révolution et de ses réalisations qu'il s'agit de faire, mais plutôt d'essayer de comprendre le type d'ambiguïté que porte l'espoir. Est-il porteur, comme on le croit, de la libération de l'homme ? Je ne le pense pas. L'effet destructeur de l'indifférence radicale se distingue au moins sur un point de celui des prophètes de l'espoir. Il ne s'accompagne pas de possibilité d'action. L'idée d'avoir à s'occuper, à se préoccuper des autres, est certainement la plus désastreuse idée qui ait jamais été formulée. En disant cela, on n'essaie pas de découvrir un ultime refuge à la liberté humaine, au proprement humain. Il s'agit au contraire de détruire le proprement humain pour éviter que des prophètes ne créent encore plus de malheurs qu'il n'en existe déjà dans le monde. Chaque existence a suffisamment à faire pour se supporter elle-même. Qu'on ne vienne pas y ajouter un poids supplémentaire en nous faisant croire à des chimères comme la liberté, la morale universelle, le bonheur, le progrès, la libération ou l'amour. Tous les jours, on fait l'expérience de ces chimères. Qui a connu le bonheur, l'amour ? Instant fugace dans une existence marquée par le malheur, le désespoir, la souffrance et la mort. Les lois morales ne fonctionnent dans nos sociétés que lorsqu'elles n'ont aucune conséquence concrète. Est-il besoin de mettre en cause le progrès tant cette idée ne veut plus rien dire aujourd'hui ? Il n'y a pas de meilleure façon de rendre le calvaire de l'existence humaine encore plus douloureux. Au terme de ce parcours, nous sommes arrivés à ce que certains appelleraient une impasse. Que faire maintenant ? Éternelle question, nous répondons « rien ». Il n'y a rien à faire si ce n'est tenter une ultime expérience, celle du désespoir. Voilà, on est en plein, hein, là, mais il faut le lire, quoi. Et du coup, là, il cite un texte de Cioran, « Idolâtre par instinct », et c'est ça, parce qu'à certains égards, il y a beaucoup de lucidité dans la partie critique, sur des choses qui sont dévoilées, mais alors la solution, après, n'est pas du tout la même. « Idolâtre par instinct, nous convertissons en inconditionnés les objets de nos songes et de nos intérêts. L'histoire n'est qu'un défilé de faux absolus, une succession de temples élevés à des prétextes, un avilissement de l'esprit devant l'improbable. » Lors même qu'il s'éloigne de la religion, l'homme y demeure assujetti, s'épuisant à forger de nouveaux simulacres de Dieu et les adopte ensuite fiévreusement. Son besoin de fiction, de mythologie triomphe de l'évidence et du ridicule. Sa puissance d'adorer est responsable de tous ses crimes. Celui qui aime indûment un Dieu contraint les autres à l'aimer en attendant de les exterminer s'il refuse. Point d'intolérance, d'intransigeance idéologique ou de prosélytisme qui ne révèle le fond bestial de l'enthousiasme. Que l'homme perde sa faculté d'indifférence, il devient assassin virtuel. Qu'il transforme son idée en Dieu, les conséquences en sont incalculables. On ne tue qu'au nom d'un Dieu ou de ses contrefaçons. Les excès suscités par la déesse raison, par l'idée de nation, de classe ou de race, sont parents de ceux de l'Inquisition et de la Réforme. Cet ouvrage n'a été au fond qu'un long commentaire de ce texte de Cioran. Nous avons seulement remplacé l'idée de Dieu tout en sachant qu'il s'agit chaque fois d'un simulacre de l'idée de Dieu par celle d'espoir et mis l'accent sur notre obligation d'agir sur l'homme. Les conséquences sont malheureusement les mêmes, tuerie, massacre, crime. On extermine, pour paraphraser le penseur roumain, qu'au nom d'un idéal auquel s'attache notre croyance, pourquoi le sachant continuons-nous à espérer ? En perdant notre faculté d'indifférence, nous devenons des assassins virtuels. C'est là le constat de 2000 ans d'histoire, de lutte et de combats politiques inutiles et vains, car les conséquences sont toujours de plus en plus désastreuses. Pourquoi s'acharner à s'occuper de l'homme ? L'indifférence adiaphora, si elle ne propose rien, laisse au moins l'existence s'anéantir elle-même. Ce n'est certes pas là un bien grand progrès, selon nos critères du devoir agir, mais au moins, chacun est laissé libre d'agoniser en paix. Voilà, il faut le lire quand même. Mais voilà, dans quoi on tombe, si on laisse tomber quand même le politique, je vois que l'heure tourne. Et puis aussi, ce qui avait été dit précédemment, c'est que si on n'a pas le politique, on renonce à la structuration de nos existences sur le mode politique, c'est à un mammon, au final, sans limite, qu'on laisse la place, et qui est déjà bien en place d'ailleurs. Il faut un système d'interprétation des pratiques auxquelles se livrent les hommes, sinon aucune régulation possible. On ne peut fonder une société sur le marché, sur la communication ou sur la seule productivité du travail. On risque d'y perdre le sujet. État du politique qui, donc, en un sens, ne doit pas nous désespérer, mais non plus ne pas nous laisser indifférents et face, voilà, à la gravité des défis du temps présent, que ce soit au niveau... voilà, des questions de sécurité, des questions économiques, questions de la laïcité, questions sur l'environnement, et puis aussi quand même tous les choix encore fondamentaux que le politique fait, de fait, et encore peut-être plus important en matière éthique. C'est le pouvoir politique qui décide d'autoriser ou de refuser le clonage thérapeutique, ce genre de choses. C'est quand même un peu plus conséquent que le choix de faire produire plus ou moins de voitures. Enfin, je dis comme ça, mais... en tout cas, sur la propriété des moyens de production et d'échange, on est passé sur des problématiques de questions de propriété du vivant même, et qui restent choisies par le politique. Ça nous intéresse. Nous sommes appelés à œuvrer pour redonner le sens du politique et de la politique. C'est l'intention qui est défendue par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, par ce petit ouvrage, Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique. Redonner sa dignité au politique, sa dimension architectonique. Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour cela ? Je vois que l'heure a tourné, 5 minutes, un peu plus. Il me semble qu'il y a des choses à faire à de multiples niveaux, aussi bien en tant qu'individu qu'en tant qu'Église. Au niveau individuel, bien, peut-être déjà commencer par nous, en tant que chrétiens, être de bons citoyens. C'est tout bête, mais les petites choses ont leur importance. Être de bons citoyens terrestres, nous sommes citoyens avant tout de la patrie céleste, mais sur cette terre, soucieux du bien de notre quartier, de notre ville, le portant dans la prière. Quelle place y a-t-il dans notre prière pour le vivre ensemble, pour les autorités, pour le politique, être nous-mêmes, prendre au sérieux le vote, bien sûr. Voilà, il ne s'agit pas de dire bon, « bah, Dieu est souverain, donc pas besoin d'aller voter », c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis, une petite chose, hein, mais la manière dont on parle de la politique, dans une attitude de respect. Alors, c'est scandaleux ce qui se passe en termes d'affaires et en termes d'éthique, et il faut le dénoncer, mais ça n'enlève pas le respect qui est dû aux autorités politiques, aux hommes politiques, et attention dans nos milieux même, où on peut tomber dans la caricature et se mettre à dire « ah bah oui, flambie ». Mais des fois, ça nous fait rire 3 minutes, mais quand on y pense, voilà, dans notre langage même, de manière dont on parle du politique, commencer par un certain respect quand même. Bien sûr, les chrétiens engagés en politique, et je déplore qu'il n'y ait pas assez d'évangéliques, qui ont un rôle à jouer pour donner du sens et de l'espoir. Alors il y en a quand même un certain nombre de chrétiens engagés en politique, beaucoup de catholiques quand même, pour la plupart, quelques protestants, et qui eux-mêmes voient au cœur de leur engagement d'être porteurs d'espoir. Eux-mêmes le définissent comme ça. Témoignage d'une sénatrice qui dit, voilà, la première responsabilité d'une sénatrice chrétienne, la première responsabilité du chrétien est de rechercher le ferment de lumière qu'il y a dans ce qui se passe. Il faut être lucide, faire la lumière, mais il faut aussi voir la lumière, ce qu'il y a d'espoir, faire que le meilleur soit possible et pas simplement de contempler les risques. Et là, du coup, toute la dynamique de l'engagement et l'importance de l'engagement en tant que chrétien. Un autre sénateur dit, voilà, en relisant finalement son parcours, dit, bah, moi, la manière dont je cherche à être porteur d'espoir, c'est en ayant essayé de mettre toujours l'homme au cœur de mon action, au-delà d'un système, de pensée qui s'applique, d'un grand schéma, mais attentif aux situations, parce qu'attentif à l'homme. Il me semble que le chrétien en politique sera porteur d'espoir par son exigence humaniste, pas l'humanisme de la modernité, mais un humanisme au sens chrétien, quelles que soient les formes que cela prend, que ce soit au niveau de la sensibilité socio-économique ou plus une sensibilité éthique. Il est aussi porteur d'espoir, il me semble, et il a cette force qu'il est libre, la liberté que le Christ lui donne, par rapport à toutes les pressions qu'il y a, et il y en a énormément, quand on n'est pas que en politique, mais notamment en politique. Il me semble qu'il a cette liberté et qui lui donne possibilité d'être porteur d'espoir. Par son exemplarité éthique, bien sûr, son honnêteté intellectuelle dans sa vie, une vie cohérente avec ses idées, dans la manière dont il va respecter aussi ses adversaires, ses concurrents, et pas dans la volonté d'écraser l'autre. Croire que la gauche a quelque chose, si on est un chrétien de droite, croire que, engagé en politique, croire que la gauche a quelque chose à apporter au débat, si on est un chrétien engagé en politique à gauche, croire que la droite a quelque chose à apporter au débat politique avec le centre, ainsi de suite. Et accepter de travailler avec des personnes de l'autre camp, ça se passe assez bien au niveau local, en général. Au niveau, au plus on monte dans les échelons, au plus c'est compliqué, parce qu'il y a des logiques de parti. Et c'est là que je reviens sur l'argument de la liberté, de ne pas être esclave de logique de parti, même si ça compte. Et puis instrument de paix au sein de leur propre parti politique, famille politique, par rapport à ceux qui peuvent dériver. Et là, chacun s'occupe de son camp, en quelque sorte. En tant qu'Église, je terminerai là-dessus, d'un côté, être Église dans la cité, au sens d'un laboratoire du vivre ensemble. Et on est censé, on sait faire ça normalement. On est basé sur des valeurs. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, mais sur une identité en Christ, dans la diversité de ce que nous sommes. Mais on peut être là un modèle d'un vivre ensemble, dans une société qui a du mal à faire du vivre ensemble, qui a du mal à articuler le lien entre individus, communautés. Être aussi une église qui produit des hommes politiques. Et dans nos milieux évangéliques, je pense qu'il faut l'entendre, comme voilà, une église qui produit des serviteurs, dans tous les sens du terme, aussi des serviteurs en politique. Une initiative alors, qui n'est pas dans nos milieux, mais dans les milieux catholiques, qui s'appelle la fraternité politique, qui est liée à la communauté du Chemin Neuf. Et ce sont des jeunes entre 18 et 30 ans qui s'intéressent aux politiques, à la chose publique, et qui se mettent ensemble pour discerner, pour réfléchir en tant que chrétiens, et qu'ils le font vraiment comme la réponse à un appel, à pas laisser. Si l'Église n'y est pas, il y en a d'autres qui y sont, hein, dans le monde et dans le politique. Donc on a besoin aussi d'y être pour conserver ce monde en tant que la dimension de sel, et qui concrètement se retrouvent, prient, réfléchissent, et il y a là des choses encourageantes. Et puis la prière, bien sûr, quelle place la prière pour la cité occupe-t-elle dans notre vie d'église? Prendre notre place dans l'espace public, dans là, plutôt le rôle de prophète pour dénoncer les idoles, et notamment cette espérance dans le politique, Luc Maroni, un évangélique qui est conseiller municipal à Lens. Il dit, voilà, moi je suis un militant anti-espérance en politique, mais un militant de l'espoir en politique. Et j'arrête pas de dire à tous mes électeurs, puisqu'il est un élu, attention, on se calme, ne mettez pas sur nous trop. On essaye d'éviter que ça aille trop mal, de faire un peu de bien, et c'est déjà ça. Mais voilà, ne surinvestissez pas sur nous non plus, pour avoir un juste rapport. Puis pour appeler à responsabilité les puissances publiques, et contribuer aussi en tant qu'Église à la réflexion. Une charte de la parole publique a été faite, que vous pouvez consulter en ligne, à l'occasion de la 4e convention de regards protestants. Une quarantaine de médias protestants, intellectuels, politiques et théologiens, ont appelé avec cette charte à une parole fiable dans l'espace public, voilà, par rapport à tout ce que j'ai dit sur l'importance de la parole au cœur et qui a été publié le 20 octobre 2016, que je vous invite à aller voir, ou encore une chaire d'éthique sur le bien commun qui a été créée à l'Institut catholique de Paris tout récemment, là, en novembre dernier. Donc voilà, d'une manière ou d'une autre, par la réflexion, par l'engagement d'être porteur d'espoir, notre espérance n'est pas dans le politique, elle est dans le royaume de Dieu, dont Christ est le roi, le souverain. Mais le Seigneur tient sa création, par le politique, ça en fait partie. Et il nous faut aussi y être, là. Merci.